sur France Bleu, Marine Logeni.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma France. On revient ce midi sur l'attaque de l'Iran ce week-end sur Israël et cette question. Quel rôle joue la France dans ce conflit? Quelles répercussions chez nous? Dès aujourd'hui, les synagogues et les écoles juives sont placées sous haute surveillance. Les motards sont en colère et le font savoir.
Un motard, si sa moto est mal entretenue, il ira au tas quoi qu'il arrive. C'est une question de sécurité, on n'a pas besoin du gouvernement pour nous apprendre à entretenir nos machines.
Ces contrôles techniques obligatoires donc à partir d'aujourd'hui pour les scooters et voiturettes aussi, on en débat dans Ma France. Et puis devenir propriétaire, est-ce un rêve inaccessible? On vous dévoile dans une demi-heure le classement de villes où il vaut mieux acheter que louer. Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous êtes resté locataire? Venez nous raconter votre projet immobilier, nos experts vous répondent. 0810 055 056.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
La tension est donc de nouveau montée d'un cran ce week-end au Moyen-Orient après les tirs de missiles iraniens qui ont visé Israël. 99% des tirs ont été interceptés. Le leader iranien affirme que Jérusalem sera bientôt entre les mains des musulmans. Et côté français, Emmanuel Macron condamne de nouveau ce matin l'attaque de l'Iran et appelle à éviter l'embrasement au Moyen-Orient.
Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël que il faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires, et puis retrouver un chemin de paix dans la région. Et ce qui est important, c'est que la sécurité d'Israël soit préservée, c'est que le travail puisse se faire contre le Hamas, mais qu'on retrouve un cadre, si je puis dire, humanitaire et politique apaisé, pour qu'on puisse aussi éviter l'embrasement régional.
Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Une réaction à la déclaration d'Emmanuel Macron. Paris a un rôle d'équilibre à jouer aujourd'hui?
Oui, absolument. Contrairement à ce que beaucoup ricanent paresseusement ces dernières années, la France, et on l'a bien vu hier, a un rôle déterminant à jouer. Ça ne veut pas dire qu'elle le jouera. Mais ce qui est sûr, c'est que la France derrière, alors loin derrière certes, mais quand même derrière les États-Unis, c'est la deuxième puissance extérieure au Moyen-Orient en capacité à la fois diplomatique et militaire. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République, dont je rappelle qu'il est quand même en vertu de la Constitution de 58 le chef des armées, avait raison de rappeler pourquoi, comment, dans quelle mesure, dans quel cadre s'est faite cette intervention militaire française hier.
Alors, sur les répercussions en France, chez nous, Gérald Darmanin demande plus de sécurité aussi devant les lieux de culte et écoles placés sous haute surveillance, donc Cyril Ardo.
Des policiers, des gendarmes, mais également les militaires de l'opération Sentinelle, mobilisés pour renforcer la sécurité des écoles confessionnelles, avec des gardes systématiques aux heures d'entrée et de sortie des élèves. Les lieux de culte et commerces juifs seront aussi sous haute surveillance, selon un message adressé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au préfet hier. Réaction donc aux tirs iraniens sur Israël, à une semaine de la fête juive de Pessah, 3 semaines après le relèvement du plan Vigipirate au plus haut niveau en France, et alors que Paris reconnaît avoir intercepté des drones iraniens. Nous sommes acteurs de la sécurité régionale, a dit hier soir le ministre des Affaires étrangères. Il précise que les missiles iraniens ont survolé certaines de nos bases militaires et ont violé l'espace aérien de nos partenaires arabes.
Les précisions de Cyril Ardo pour France Bleu. Avec nous ce midi également Fabienne Bendaïa-Chetrit. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes représentante du CRIF à Marseille, le Conseil représentatif des institutions juives. Quel est votre état d'esprit ce lundi?
Écoutez, on a rappelé effectivement les annonces qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur relativement au renforcement de la sécurité des lieux de culte et des écoles. Je crois que effectivement, c'est un renforcement qui est absolument nécessaire, qui est de nature à apaiser les inquiétudes légitimes de la communauté juive. On a constaté effectivement par le passé que malheureusement l'embrasement des tensions au Proche-Orient avait des conséquences directes sur notre sol. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Ozara Tora ou encore à l'Hyper Kacher, où effectivement des personnes sont mortes, assassinées au nom effectivement de la cause palestinienne et des tensions qui étaient présentes en Israël. Donc c'est effectivement des décisions qui ont été prises qui sont salutaire pour assurer la sécurité et apaiser effectivement les inquiétudes de la communauté.
Frédéric Ancel, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes avec nous également ce midi. Doit-on s'attendre à des tensions en France ?
Oui et non. Oui parce que, en tout cas, oui potentiellement, parce que l'Iran a déjà frappé la France dans les années 80 et 90 de manière extraordinairement violente, via de véritables attentats terroristes, hein, d'une part. D'autre part, l'actuel régime politique au pouvoir, et en particulier ces dernières années, est parfaitement fanatique. Par ailleurs, je serais quand même prudent parce que parmi les gens qui seraient enclins, parce que islamistes radicalisés, en France à vouloir frapper, il n'y a quasiment que des sunnites. Or, je me permets de rappeler qu'au Moyen-Orient, le clivage, et on l'a encore vu hier, le clivage géopolitique, j'ai presque envie de dire sociétal, et parfois culturel et religieux aussi, qui prévaut, c'est vraiment celui entre chiites et sunnites. La preuve, c'est que l'Iran et son axe de la résistance, je mets ça entre guillemets, n'est composé en réalité que de chiites. Et en face, vous avez des États, dont la Jordanie, qui a participé à la riposte, sont des États sunnites. Donc, si vous voulez, en France, encore une fois, les gens qui, ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls, mais les gens qui seraient, qui ont été jusqu'à présent radicalisés, qui le sont, qui le seraient, sont, à ma connaissance, pour l'instant, dans leur totalité, des sunnites. Alors, il n'est pas évident qu'ils vont passer à l'acte pour défendre une cause qui, a priori, n'est pas la leur.
L'ambassadeur d'Iran est convoqué aujourd'hui pour passer un message de fermeté, selon Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Frédéric Ancel, qu'est-ce qu'il va se dire pendant cette réunion ?
Ah, mais il va se dire que la politique actuelle de l'Iran, non seulement au Moyen-Orient, mais de manière plus générale, est une politique extraordinairement agressive, qu'elle est de nature impérialiste et dangereuse. Et que par conséquent, la France se tiendra du côté de ses alliés. Je ne parle pas en l'occurrence d'Israël, d'ailleurs je parle de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis, hein, qui sont des alliés militaires de la France. Et encore une fois, la riposte française a illustré ça, ainsi que le discours du président de la République. Et je pense que c'est ça qui va être dit à l'ambassadeur d'Iran.
Fabienne Bendaya-Chetrit, vous êtes représentante du CRIF à Marseille. On l'a entendu, il y a des dispositifs de sécurité qui vont être renforcés. Malheureusement, c'est un scénario qui se répète.
Oui, absolument. Malheureusement, déjà depuis le 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, il y a des mesures qui avaient été annoncées pour renforcer la sécurité des lieux de culte et ainsi que des écoles. Et puis, on l'a rappelé, effectivement, une vigilance attentat accrue qui effectivement alimente cette inquiétude parce que malheureusement, les actes terroristes visent l'ensemble de la communauté juive généralement prioritairement. C'est ce qu'on a vu également par le passé dans les différentes actions terroristes qui ont été menées. Donc c'est une inquiétude au regard du contexte, c'est une inquiétude particulière que nourrit la communauté juive.
Et très concrètement, au quotidien, au-delà de ces dispositifs de sécurité, comment la communauté juive, est-ce qu'elle prend des précautions au quotidien par rapport aux enfants, par rapport aux écoles ? Comment vous sentez ça ?
Oui, il y a un certain nombre de mesures de précautions, des mesures de vigilance qui sont mises en œuvre. Alors bien évidemment, il n'est pas question de céder à la terreur ou de céder à la peur, mais je crois que la vigilance est le maître mot dans de telles circonstances où on appelle effectivement la communauté juive à faire montre de prudence, notamment au niveau des écoles, éviter les rassemblements à l'heure d'entrée et de sortie. Donc il y a un certain nombre de mesures et de consignes qui sont données pour rappeler effectivement à une vigilance renforcée.
Fabienne Bendaya-Chetrit, représentante du CRIF à Marseille. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Frédéric Ancel, une dernière question pour vous, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures ? Alors, difficile, on n'est pas voyant, mais qu'est-ce qui peut se passer ?
Dans les prochaines heures, pas grand-chose, parce que Israël, me semble-t-il, a décidé de ne pas réagir à chaud. Mmh. Ce qui d'ailleurs est conforme à sa tradition, qu'on se souvienne de, même si le contexte est évidemment tout à fait différent, mais de l'assassinat des athlètes israéliens au JO de Munich en 72, Golda Meir, à l'époque, avait donné l'ordre au Mossad de prendre tout son temps, et en l'occurrence plusieurs années, pour aller éliminer les uns après les autres les chefs de l'attentat. Alors évidemment, là, non seulement le contexte, mais la situation est différente, et néanmoins, les Israéliens en général, ça n'a pas toujours été le cas, par exemple le 8 octobre, ça n'a pas été le cas après le 7, mais en général, les Israéliens jouent beaucoup sur un temps relativement long et sur de très grands espaces, ainsi que sur une diversité de leurs cibles pour riposter lorsqu'ils considèrent qu'ils doivent le faire.
Un mot sur justement les mots choisis par Emmanuel Macron au lendemain de cette attaque. Nous avons décidé d'intervenir, c'est ce qu'il a dit. Il a été quand même très prudent, on va dire.
Il a été prudent, mais je pense que beaucoup d'observateurs font la confusion entre l'amitié et l'alliance. L'alliance est un terme qui est beaucoup trop galvaudé. Par exemple, l'Iran n'a pas d'alliés, certainement pas la Russie et la Chine. Bon, on le voit bien aujourd'hui. Là, la France n'a pas d'alliance militaire avec Israël. On n'a pas, statutairement, on n'a pas. Ce sont deux pays amis et partenaires. En revanche, la France est alliée de la Jordanie et des Émirats arabes unis. À partir du moment où l'espace aérien de l'un de ces deux alliés est violé par un engin potentiellement hostile, la France intervient.
On protège nos intérêts.
Absolument.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Ansel d'avoir été avec nous. On rappelle votre ouvrage en librairie, Les 100 mots de la guerre chez PUF. Propriétaire de scooter, moto, voiturette ou même quad, attention, le contrôle technique devient obligatoire aujourd'hui. Il faudra y passer, oui, avant le 14 août, en fonction de l'ancienneté de votre deux-roues. Une mesure qui fait bien évidemment bondir les motards, comme ici à Bordeaux. Pour eux, ce contrôle technique ne sert à rien, mis à part faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Sarah Saltiel-Rago.
L'entretien de leur moto, ils s'en occupent déjà, assurent de nombreux motards comme Jérémy.
Un motard, si sa moto est mal entretenue, il ira au tas quoi qu'il arrive. Question de sécurité, on n'a pas besoin du gouvernement pour nous apprendre à entretenir nos machines.
Alors pour eux, c'est juste une manière de récupérer leur argent.
C'est du racket, ouais, simplement.
Nous voler 60 euros, 80 euros pour un contrôle technique visuel, pour voir que les clignotants marchent bien, je comprends pas et j'accepte pas.
Je pense que c'est un peu une machine à pognon, quoi. C'est de l'argent foutu en l'air pour rien.
Pour autant, Stéphane, par exemple, n'est pas opposé à toute forme de contrôle, mais avec des nuances.
Je préférerais davantage un contrôle technique à la vente de la moto, comme en Belgique, pour pouvoir la vendre et que l'acheteur puisse l'acheter en toute conscience de son état. Et ça me paraît tout à fait suffisant pour nous, les vrais motards. Je parle pas des petits scooters, des gens qui ont 14-16 ans. C'est un autre device, il y a plein de dérives. Donc contrôle technique, ouais, mais il faut qu'il soit intelligent.
Et si les lignes ne bougent pas, ils ne comptent pas s'arrêter là, explique Marianne Grand, la coordinatrice de la Fédération des motards en colère 33.
On va continuer nos actions et donc la FFMC a mis en place donc un site, ça s'appelle Balance ton centre, où on répertorie justement tous les centres de contrôle technique qui feront le deux-roues motorisé. On lance vraiment le boycott et si nous on commence à toucher à leur portefeuille, donc au centre technique, je pense que là ils vont commencer un petit peu à avoir peur.
Et de nouvelles actions sont d'ores et déjà en préparation.
Sarah Saltiel Rago, France Bleu, Gironde. Franck-Olivier Taureau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le porte-parole du collectif Ras le Scoot, une des trois associations qui avait saisi le Conseil d'État pour la mise en place de ce contrôle. Vous êtes donc satisfait aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Oui, on est satisfait que la mesure
entre soit enfin en vigueur.
Effective. Ouais.
Et quand on entend ce reportage, les arguments qu'on vient d'entendre des motards, autant dire que pour vous, ils sont irrecevables. Le racket de l'État.
On les entend et on les entend d'autant plus que, en effet, l'État s'attaque un peu à tout, sauf les plus riches pour récupérer des sous dans les caisses de l'État. Donc, oui. On peut comprendre cet argument qui aujourd'hui fait encore plus sens et va un peu dans leur sens. Mais en même temps, le contrôle technique, c'est une directive européenne qui date d'il y a 10 ans. Il faut le mettre en place. C'est important parce que justement, pour éviter qu'il y ait des épaves qui circulent, etc., parmi les motos, parmi tous les deux roues motorisés d'ailleurs, les voiturettes aussi. Mmh. Et donc ça concerne tout le monde, ça concerne pas que les motards. Mmh. Et donc on veut bien entendre que certains motards prennent soin de leur moto, etc. Après il y a la question du bruit, de la pollution, etc. Et ça, on a beaucoup de motards, on reçoit beaucoup de messages, notamment d'insultes et de menaces, de motards qui nous disent on remettra notre chicane pour faire le contrôle technique et après on enlèvera pour faire encore plus de bruit. Mmh. Vous voyez, c'est quand même positions qui sont de la provocation ou... Enfin, on a l'impression d'être face à des enfants gâtés à qui on enlèverait leur jouet, quoi.
Alors, Franck-Olivier Taureau,
on les a laissés tranquilles pendant des années. Et voilà.
On rappelle qu'un contrôle pour une petite cylindrée scooter ou mobilette, ça commence à 40 euros. Pour une moto supérieure à 125 cm3, les prix vont de 50 à 70 euros. C'est aussi une petite révolution pour les contrôleurs techniques qui, jusqu'ici, ne s'occupaient que des voitures. Alors, est-ce que leurs centres sont prêts? Que vont-ils contrôler exactement? Réponse à Dourdan dans l'Essonne avec Boris Loumagne.
Tout est prêt chez Joël Mendes. Le contrôleur technique va s'occuper de ses premiers véhicules de roue dès cette semaine.
On a toute une zone là qui est aménagée avec tout l'outillage spécifique. Donc les béquilles pour béquiller la moto, le bloc roue. Voilà, on a dû investir dans du matériel spécifique, entre 5 et 10 000 euros selon le matériel choisi.
Joël et son collègue ont également dû se former, 3 jours d'apprentissage intensif pour connaître les 78 points de contrôle sur le bout des doigts.
Donc sur la moto, on contrôlera déjà tout ce qui est identification, donc la plaque d'immatriculation, on vérifiera le numéro de série qui est gravé sur le châssis également.
Sans oublier l'état des pneus, de la chaîne, des amortisseurs.
L'usure des plaquettes, des disques, l'état de tous les tuyaux de frein, de toutes les durites de frein.
L'éclairage aussi, les câbles électriques, les rétroviseurs.
Nous contrôlerons également la pollution. Il y a un paquet de choses exactement. Il faut être sûr que les machines sont en bon état avant de rouler avec, hein, bien sûr.
Alors pour l'instant, les conducteurs de deux roues ne se bousculent pas chez Joël Mendes.
Je pense qu'à partir du mois de mai ou juin, on aura déjà plus de demandes. Au beau jour, quand les gens ressortiront leur moto.
Et dans ce centre, le contrôle technique des deux roues coûtera 75 euros.
Alors, reportage dans ce centre à Dourdan, dans l'Essonne, hein, avec Boris Loumagne. Nous sommes, nous, avec Franck-Olivier Taureau, porte-parole du collectif Ras le Scout. On a fait un peu une énumération, hein, de ce qu'on contrôle là, dans le reportage sur les deux roues. Il s'agit en priorité de lutter contre la pollution sonore et environnementale, c'est ça, l'objectif de ce contrôle?
Oui, alors selon nous, c'est ce qu'on demande en fait, hein, depuis des années, c'est qu'effectivement on s'occupe de la pollution environnementale et atmosphérique, la pollution sonore et atmosphérique. C'est vraiment nos points pour nous qui nous semblent importants. Après le reste, effectivement, ça fait partie du contrôle technique, hein, donc que les pneus soient vérifiés, que les freins, que les éclairages, etc. Et notamment pour tous les deux roues motorisées qui sont au stade d'épave, qui ne pourront donc pas passer le contrôle technique. On pense que ça aura un effet positif et que du coup ces deux roues ne pourront plus circuler. Après,
l'obligation,
évidemment, il faudra qu'il y ait des contrôles.
Oui, il faut mettre en conformité ces fameux pots d'échappement. C'est vrai que parfois ça fait sursauter, hein, quand on entend deux roues passer dans la rue.
Exactement. Et que ce soit d'ailleurs en ville comme à la campagne, puisqu'en fait, c'est vrai que l'argument des motards, c'est toujours de dire, oui, si vous ne supportez pas le bruit, allez vivre à la campagne, mais à la campagne, c'est pas mieux. Mmh. Moi-même, je vis dans une petite ville, tous les vendredis soirs, on entend les motards qui font vroom vroom sur la rocade.
Il y a les quads aussi à la campagne.
Oui, il y a les quads aussi à la campagne, bien sûr. Oui, bien sûr, ils seront aussi concernés par le contrôle technique, ce qui est une bonne chose. Il y a les 50 cm3 aussi, hein, qui font parfois un boucan pas possible. Et qui seront contrôlés également.
Il faut se responsabiliser, en gros, c'est ça.
Exactement, il faut se responsabiliser. Alors c'est vrai qu'on entend aujourd'hui la grogne de la FFMC qui dit nous, on se conformera pas, etc. On a Sacha Houlier, qui est quand même le président des commissions des lois, qui dit qu'il ne passera pas le contrôle technique, ce que nous, on appelle d'ailleurs à sa démission, puisqu'on trouve ça vraiment scandaleux qu'un député de ce niveau
vous appelez à sa démission,
puisse tenir de tels propos. Ah oui, tout à fait.
C'est irresponsable, oui, selon vous?
C'est irresponsable d'avoir une position pareille, c'est complètement irresponsable. Après, on sait qu'il est motard et qu'il a soutenu justement le lobby motard, il soutient le lobby motard depuis des années, mais on appelle à sa démission, bien sûr.
Alors, l'autre argument des motards, c'est qu'ils soutiennent que les accidents ne sont en général pas dus à leur deux roues, mais à l'état de la chaussée. Donc, il faut regarder ailleurs.
Oui, bien sûr, il faut toujours regarder ailleurs. C'est toujours les autres, en fait. C'est pas de leur faute, c'est l'état de la chaussée. Alors, l'état de la chaussée, il est pas parfait, ça, on en est conscient chez Ralls Scout, hein, bien sûr. Mm-hmm. Les nids de poules, les barrières, les glissières de sécurité qui peuvent être un danger, etc. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que la vitesse aussi est en cause et que la vitesse, souvent, eh bien, elle est largement dépassée, que ce soit d'ailleurs en ville ou comme sur les routes. On les voit passer, hein, à toute vitesse. Donc oui, bien sûr, il y a l'état des routes, mais il y a aussi l'état des véhicules en eux-mêmes. Et puis, bien sûr, l'utilisation qui en est faite, donc la vitesse excessive.
Et ce contrôle, il sera valable combien de temps? Combien d'années?
Alors normalement, il sera valable 3 ans. Donc voilà, donc on parle de entre 60 et 80 euros tous les 3 ans quand même. Hein. Donc c'est pas...
qui n'est pas faramineux, on va dire.
Mais non, ça n'a rien de faramineux. Il faut... Enfin, en fait, les motards en colère sont dans une posture, parce qu'effectivement, ils ont été habitués pendant des années à la bienveillance de tous les gouvernements successifs pour leur laisser faire ce qu'ils voulaient. Mm-hmm. Bah, le rapport de force est un peu en train de changer.
Et comment ça se passe dans nos pays européens voisins, justement? Est-ce que la France, elle est particulièrement laxiste?
Oui, tout à fait. La France est particulièrement laxiste sur ce sujet. Alors après, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de motos et de deux roues motorisées en France, hein, puisque c'est un mode de transport qu'on a collectivement, je dirais, encouragé, contrairement à d'autres pays. Le contrôle technique, il a fait sa preuve de son efficacité dans 23 pays de l'Union européenne. Donc, on peut pas dire que, enfin, voilà.
Et vous, au quotidien, au sein de votre association, est-ce que le dialogue est possible avec les motards ou c'est quand même un peu compliqué? Est-ce que vous menez des campagnes de prévention? Comment ça se passe?
Alors, le dialogue a été possible jusqu'à il y a 2 ans à peu près, et j'ai l'impression que le dialogue est un peu rompu, malheureusement, parce que c'est vrai que nous, on aime bien débattre avec tout le monde, ouais. Donc même avec les motards. Moi, j'ai eu déjà plusieurs discussions, mais ça remonte un petit peu avec Jean-Marc Bellotti, donc de la FFMC Île-de-France, où on était d'accord sur certains points. Donc on peut être d'accord. Après, c'est vrai que là, on est vraiment sur un point de rupture.
On a l'impression que c'est deux univers un peu irréconciliables, un peu comme les cyclistes et les automobilistes, quoi.
On va dire de plus en plus. Et c'est vrai que le fait que les motards disent, nous, de toute façon, on le passera pas, quoi qu'il arrive, on a un peu l'impression de rentrer dans une espèce d'idéologie un peu d'extrême droite, de on ne contracte pas avec les pouvoirs publics qui ne sont plus des pouvoirs publics. Enfin, on est en train d'essayer de rentrer dans une sphère un peu bizarre quand même. En même temps, c'est la loi, et la loi dit qu'il faut passer le contrôle technique. C'est une directive européenne qui a 10 ans, donc maintenant, il faut y aller.
Allez, appel au calme ce midi de Franck-Olivier Taureau, porte-parole du collectif Ara le Scout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Ma France revient dans quelques minutes. On va parler immobilier. Dans quelle ville faut-il acheter ou faut-il plutôt louer? On attend vos appels. 0810 055 056 au standard de France Bleu. Vos témoignages sur vos difficultés à trouver un logement. Également en ce moment, on sait que c'est la crise. On vous attend. 0810 055 056.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Chaque jour avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu.
Bonjour, c'est bien moi.
On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission.
Dans le prochain numéro, ça va comment? Comme un lundi, on démarre la semaine avec les bons conseils, les belles initiatives. Tiens, on va se poser la question suivante. Est-ce que les compléments alimentaires, ça marche vraiment? Moi, j'en prends beaucoup, un petit peu trop d'ailleurs. Est-ce que c'est bien, pas bien? Les réponses dans l'émission.
Willy Rovelli et la tribu France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dès 13h.
Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. La MAF, je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur maf.fr.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ma France, sur France Bleu, Marine Logeni.
Acheter ou louer un appartement, une maison, c'est tout se poser où on se pose en ce moment la question et la réponse n'est pas évidente, loin de là, ça dépend de votre ville, de votre région. On essaie d'y voir plus clair dans quelques minutes avec un classement des villes où il faut réfléchir à deux fois avant de signer un compromis et seuls où les voyants sont au vert. Et vous, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire? Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'achat? 0810 055 056, on vous attend au standard de France Bleu pour échanger avec nos experts.
Ma France sur France Bleu. Ça se passe bien chez vous.
Mais avant cela, ça se passe bien chez vous, comme tous les jours dans ma France, à Nice, ce midi, avec ce robot novateur au collège Simone Veil qui permet aux enfants malades de suivre les cours à distance en interaction avec la maîtresse et les autres élèves, Sébastien Germain.
C'est un robot d'1,50 m, avec pour visage un écran, une tablette où l'on voit EDM. L'appareil est monté sur des roulettes télécommandées. Le collégien peut déplacer son robot comme s'il était dans la salle avec les autres élèves. EDM le contrôle de sa chambre avec un joystick. Natacha Chicot, la rectrice de l'académie, est bluffée.
Alors, est-ce que tu peux venir vers nous, par exemple, là, ou pas?
Ah,
c'est formidable. Vraiment, je suis ravie de... Moi, c'est la première fois que je vois fonctionnement de ce type de robot. C'est vraiment super.
Enthousiasme partagé par la professeure d'anglais d'EDEM, Shaima Ayoub.
Ah, moi j'adore. C'est vraiment l'usage de la technologie à bon escient, c'est ça. C'est incroyable. Parce que regardez, ça lui permet d'être là avec ses camarades. Il est à la maison et en même temps, il peut suivre, donc il perd rien, il perd pas une miette de tout ce qu'on fait en classe.
EDEM a une maladie auto-immune. Il est obligé de rester chez lui, alors ce robot lui permet de ne pas décrocher.
Bah, c'est mieux que je n'ai pas en cours. Et oui, ça va, j'apprends bien. Et oui, c'est comme en classe. Et moi, je trouve c'est bien.
C'est bien, dit EDEM, qui devrait bientôt revenir dans sa classe. Et grâce à ce robot, il connaît déjà ses camarades.
Sébastien Germain, France Bleu, Azur. Donc chaque enfant hospitalisé ou obligé d'être à la maison peut disposer gratuitement d'un système de téléprésence. Éric Béguin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, sous-directeur à la direction régionale académique sur le numérique éducatif. C'est un long titre. Vous êtes d'accord pour qu'on vous appelle Monsieur Robot de la région PACA? Ça vous ira?
Si, ça permet d'être plus. Bref, oui, ça ne va pas.
Alors, on le sait peu, mais il y a 900 robots qui tournent en France depuis 3 ans. C'est ça, pour un état des lieux?
C'est assez fluctuant, ça monte et ça descend. Aujourd'hui, on a 900 robots qui sont utilisés. Après, comme ce sont des services qui sont temporaires, ça peut monter et descendre. On est actuellement autour de ce chiffre-là, oui, sur l'ensemble de la France.
Mais celui-ci, c'est le plus mobile, le plus résistant. Il a quelque chose quand même de spécial.
Bah alors, celui-ci est plus mobile, plus résistant, et surtout, on a 3 types de robots qu'on propose pour les enfants, selon souvent leur âge et selon les conditions dans lesquelles il doit être utilisé. On a des tout petits robots qui ont un aspect humanoïde qui concerne surtout les enfants de maternelle et de primaire. Mmh. On a ensuite des tablettes qui sont plus mobiles si on a des problèmes de déplacement. Et puis, on a le grand robot auquel vous avez fait référence, qui fait 1m20. Et qui a la particularité d'être notamment télécommandé par un ordinateur portable et qui s'adresse plutôt à des jeunes adolescents.
Et ça permet vraiment de rompre l'isolement des enfants malades?
Alors, selon les situations, on a effectivement des objectifs qui sont différents, bien entendu, qu'on soit en maternelle ou en BTS. De manière plus générale, on cherche à maintenir un lien qui est à la fois pédagogique et aussi social, ce qui est notamment le cas dans les petites classes, puisque ça permet aux élèves de garder une motivation, de continuer à avoir un lien social et de ne pas être isolés dans leur situation de maladie.
Et les profs, comment ils reçoivent ça?
Bien, bien.
Ils s'adaptent
Il s'adapte, voilà. Je pense que l'arrivée des robots, c'était en 2021, donc on s'est amélioré en termes d'accompagnement, et bien entendu, les situations et les gestes professionnels des enseignants sont amenés à évoluer, à s'adapter à ce qui est un robot dans la classe. Bien entendu, toutes les activités pédagogiques ne se prêtent pas à l'utilisation du robot. 3 heures de dissertation dans un lycée, il n'y a aucun intérêt à ce qui est une interaction avec un élève qui est empêché. Par contre, il y a des situations de pratique de classe qui sont pertinentes, comme des travaux de groupe, comme des partages avec un collègue élève, etc.
Avec un effet.
Il faut aussi s'adapter au contenu, mettre en place des outils qui vont autour, partager des documents en amont, mais les enseignants sont très très favorables au dispositif et s'y font assez facilement.
Et c'est très bénéfique pour le climat de la classe. Juste pour obtenir un robot, il faut en faire la demande, tout simplement?
Alors, il faut en faire la demande. Le plus simple est de passer par son directeur d'école ou par son chef d'établissement. Et ensuite, c'est toute une collaboration avec un certain nombre de partenaires, dont le service d'accompagnement pédagogique à domicile, un avis du conseiller médical, etc. Toutes les situations ne s'y prêtent pas, et on est surtout sur des situations qui sont amenées à des évictions scolaires assez longues, de un mois et demi, et puis bon, pour la plupart, d'une année scolaire complète, quoi.
Merci Éric Béguin d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle donc que vous êtes le Monsieur Robot de la région PACA. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci, bonne journée, au revoir.
L'accalmie dans les hausses des taux de crédit donne des envies d'achat en ce moment, mais est-ce toujours judicieux? Meilleurs agents dévoile son dernier classement des villes où il vaut mieux soit acheter, soit louer un 70 mètres carrés. Bonjour Cédric Laveau.
Bonjour.
Alors, vous êtes administrateur national à la FNAIM. Ce classement, vous avez pu le consulter. Où sont les chanceux qui amortissent donc rapidement leur achat?
Eh bien, ils sont partout où ils achètent. Ah. C'est une. Je vais répondre un peu différemment que cette étude. J'ai toujours un petit peu de recul sur ces études. L'origine de ces études sont faites par des annonceurs, Se Loger, Meilleur Agent, qui ont pour clients les agents immobiliers. Donc, c'est un peu jugé parti, si D'accord. vous voulez, mais la question est très intéressante. Mais ce sont les mêmes études qui avaient dit que le Covid allait faire s'effondrer les prix, alors que les prix ont explosé. Donc, je prends toujours un petit peu de recul. Mmh. C'est très bon d'avoir un outil de travail pour pouvoir se poser les bonnes questions, et merci de se les poser. Mais la question est plus générale.
On a quand même des tendances, Cédric Laveau. On peut pas l'ignorer. À Paris, Marseille ou Nice, on met beaucoup plus longtemps pour amortir son achat.
Alors, à Paris, Marseille ou Nice, c'est beaucoup plus difficile d'acheter parce que l'accès au logement est plus compliqué. En revanche, si vous avez, dès votre plus jeune âge, accédé à la propriété parce que culturellement, eh bien, c'était important et qu'on vous a, on vous a initié à accéder à la propriété, vous avez pu, par étapes, successivement, avoir des apports qui vous permettent, au fil du temps, de pouvoir accéder à des biens plus élevés. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que, finalement, l'acquisition immobilière vous permet votre indépendance financière à différentes étapes de votre vie. Vous avez acheté votre petit deux pièces au départ de votre activité professionnelle, vous le revendez, ça vous fait un petit apport pour acheter un peu plus grand quand vous êtes en situation de charge de famille. Mmh. Et puis plus tard, quand vos enfants partent faire leurs études, eh bien, si vous avez toujours une charge très prégnante de votre résidence principale, eh bien, c'est compliqué de cumuler les deux. Encore plus tard, quand vous partez en retraite et que vos revenus diminuent, si vous avez payé un bien immobilier, eh bien, vous êtes bien soulagé de quelque chose. Et enfin, assurer votre dépendance pour pas faire payer le prix à vos enfants, quand vous pouvez revendre ou vos enfants peuvent revendre un bien immobilier pour assurer votre dépendance, c'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable.
Mais encore faut-il pouvoir acheter. On a Michel qui nous appelle au Standard de France Bleu. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes locataire depuis 11 ans, c'est ça?
C'est bien ça, c'est Marine, vous?
Oui, c'est Marine, moi. Enchanté, Michel.
Enchanté, également. Donc, comme j'ai expliqué au Standard.
Oui.
Donc, moi, en tant que
à
locataire.
Caroline.
Oui, en tant que locataire. Bon, j'ai été également propriétaire. Oui. Bon, en tant que locataire, aujourd'hui, j'ai ma liberté. Ma liberté de penser, comme dit le chanteur. Mais bon, j'ai ma liberté parce que je suis actuellement en train de subir depuis, ça fait au moins 5 ans, des désagréments de voisinage.
D'accord.
Je m'apprêtais même à aller porter plainte ce matin, mais comme je ne suis pas d'un naturel guerrier, donc je pour l'instant, je subis.
D'accord. Et donc vous, en fait, pour résumer, Michel, vous êtes locataire parce que vous ne voulez pas des désagréments aussi quand on est propriétaire. Cédric Laveau, c'est un discours que vous avez de plus en plus parmi vos clients. Est-ce que le fait de devenir propriétaire, finalement, c'est beaucoup de contraintes également?
Alors généralement, les clients qui souhaitent devenir propriétaire, les clients qui sont locataires souhaitent devenir propriétaire. On sait que c'est un rêve français d'accéder à la propriété. La difficulté, c'est qu'il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire assez rapidement. Si, quand vous êtes déjà bien installé, que vous avez une situation de famille et que vous avez des enfants à charge, vous vous posez la question d'accéder à la propriété, c'est possible, mais ça sera un peu moins simple que si vous l'aviez déjà fait avant et que vous bénéficiez de petits apports qui vous permettent d'accéder toujours en fonction de cette évolution.
Alors, une fois qu'on a décidé d'acheter ou de louer, faut-il encore trouver le bien? Pierre-Marie Perrin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur des affaires publiques du groupe Elio. Est-ce qu'il y a une crise du logement en France?
Alors, il y a une crise du logement en France, effectivement, notamment à cause de la hausse des crédits, du coût des crédits. En revanche, il y a un domaine où on peut faire des affaires, c'est la rénovation énergétique d'un bien. Mmh. Et lorsque vous achetez un bien qui a beaucoup de rénovation énergétique, le prix est souvent plus bas. Et vous avez en même temps des aides qui sont très importantes, des aides publiques et des aides privées qui vous permettent de rénover un bien.
Alors c'est acheter le fameux diagnostic énergétique, un logement qui a une note peu basse.
Voilà, une passoire thermique.
Une passoire thermique, carrément.
F ou G.
Mais après, c'est quand même beaucoup de coûts. Mais on s'y retrouve finalement.
Alors on s'y retrouve parce qu'on arrive à financer, pour des ménages par exemple qui sont très modestes, on arrive à financer jusqu'à 90% des travaux de rénovation énergétique. C'est très important et l'ensemble des Français peuvent bénéficier d'aides, qu'elles soient publiques ou privées.
Alors, c'est énorme, le taux de logements à rénover, ils sont 40%, c'est ça en France?
Alors 40% de logements, mais on parle aussi sur les maisons individuelles, puisqu'on sait que 80% des Français souhaitent acquérir un logement individuel, un pavillon. Donc c'est un peu le rêve français. Et donc on a quasiment plus de 80% qui sont des passoires thermiques. Donc si on veut avoir faire une bonne affaire, achetons un pavillon à rénover en F ou en G, faisons des travaux, obtenons les aides. Et comme ça, on arrive à faire baisser notre reste à charge et à valoriser un bien.
Alors, ce que vous dites va intéresser notre autre invité, Marc Le Fur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes député Les Républicains des Côtes d'Armor. Et vous, justement, vous êtes un fervent défenseur du pavillon de la maison individuelle.
Tout à fait. C'est, je crois, effectivement, comme vos invités le disaient, le rêve des Français. C'est très net en Bretagne. Et il y a encore 10 ans, des gens disposant de revenus moyens, voire modestes, au moins dans les zones rurales et dans les petites villes, arrivaient à accéder à la propriété. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour plusieurs raisons. Il y a les taux d'intérêt, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres raisons, et en particulier une loi que je considère comme très funeste, qui s'appelle le zéro artificialisation net, qui fait que l'on ne peut plus construire, de fait, même dans des zones où il n'y a pas beaucoup de gens, dans des zones rurales où, naguère, on pouvait construire. Donc, je crois qu'il faut vraiment relancer la construction. Oui. Vous savez qu'en France, la construction est pratiquement à l'arrêt. Ça va poser des problèmes d'emploi conséquents. Et pour relancer cette construction, il faut multiplier ce qu'on appelle le prêt à taux zéro. C'est un dispositif très intéressant. Mmh. Il faut savoir que ce dispositif n'est pas autorisé pour les maisons individuelles.
Alors, il y a une... Oui, Marc Le Fur, vous restez avec nous. La solution prônée par le gouvernement, c'est plutôt de construire à la verticale. C'est ce qu'a proposé en tout cas le Premier ministre Gabriel Attal. On l'écoute.
C'est pas vrai de dire que construction rime avec bétonisation, avec fin des espaces verts ou de la qualité de vie. La réalité, c'est qu'on peut continuer à construire, notamment en surélevant certains nombre de bâtiments. Construire, ça ne veut pas dire sacrifier des parcs, sacrifier des jardins, des espaces verts. Pour construire à l'horizontale, on peut continuer à construire en verticale. Ce principe, il est donc simple et clair, c'est du bon sens. Construire des étages supplémentaires pour créer des nouveaux logements. On sait qu'il y a un certain nombre de projets qui étaient envisagés, qui ont besoin d'un coup d'accélérateur de ce point de vue-là. À Nice, par exemple, 5000 bâtiments ont été identifiés qui pourraient permettre de construire 7750 nouveaux logements sans rien bétoniser puisqu'on construit en hauteur. Et donc là-dessus, mon engagement est très clair. Je demande que cette année, bailleurs sociaux, collectivités réalisent toutes les études pour identifier où on peut construire et combien de logements on peut construire. Je souhaite que dès 2025, on construise à la verticale dans toutes les grandes villes de France.
Marc Le Fur, député Les Républicains des Côtes-d'Armor, c'est pas vraiment la solution que vous prenez, construire à la verticale.
Alors c'est peut-être une solution pour les métropoles, très
denses, pas pour les campagnes, évidemment.
Mais pas pour les petites villes, pour les villes moyennes, pour les campagnes, où la solution de la maison individuelle est celle auquel les Français aspirent. Et en plus, c'est la solution la plus écologique. C'est dans le garage de la maison individuelle qu'on pourra brancher sa voiture électrique, puisqu'on nous dit qu'il faut passer à la voiture électrique. Les pompes à chaleur, le président de la République se fait le promoteur des pompes à chaleur. Mais ça implique pratiquement la maison individuelle. C'est très difficile de la faire dans du collectif. Les panneaux voltaïques qui pourraient être mis sur les toits qui le sont déjà. Tout ça, c'est des solutions écologiques permises par la maison individuelle. Donc, je crois qu'il faut que nous allions vers ce dispositif et vraiment décourager les Français d'accéder à les propriétés, c'est une erreur de fond. Moi, je le vois dans mon secteur, où les retraités sont des gens modestes. Eh bien, entre celui qui, retraité modeste, possède sa maison et donc a une certaine garantie, et celui qui continue à être locataire et qui a cette charge supplémentaire, il y a une vraie différence. Je crois que la sécurité aussi financière des Français passe par l'acquisition de la propriété. Et les Français, contrairement à ce qu'on nous dit à Paris et contrairement à ce que peut dire le Premier ministre, ils continuent à aspirer, à souhaiter la maison individuelle. Mmh. Elle est possible dans au moins une grande partie de notre territoire.
Pierre-Marie Perrin, vous êtes également avec nous ce midi, directeur des affaires publiques chez Elio. Ce que dit Marc Le Fur, vous êtes d'accord, la maison individuelle, c'est aussi une réponse écologique, ça peut le devenir ? Si on fait en sorte de la rénover et...
Alors oui, nous, on prône vraiment la réhabilitation ou le fait d'agrandir sur des pavillons déjà existants. On parlait, monsieur le député parlait des garages, ça peut être aussi une solution.
Et à qui on s'adresse pour avoir toutes les aides ? On va faire un peu de pratico-pratique, mais...
Les aides, la première des choses, c'est d'aller voir un conseiller France Rénov, donc dans un espace France Rénov. C'est la porte d'entrée aujourd'hui pour lancer des travaux de rénovation énergétique. Et puis, une fois que vous avez été voir votre conseiller France Rénov, il va vous accompagner, il va vous proposer un accompagnement. Et notamment, si vous souhaitez faire des travaux d'ampleur, donc c'est-à-dire au moins trois gestes de travaux pour obtenir des aides importantes, il va vous emmener vers un Mon Accompagnateur Rénov. Donc ça va être la personne qui va vous accompagner tout au long du suivi de votre projet. Mmh. De la préconisation des scénarios de travaux, en passant par les financements, puis les travaux, puis la prise en main du logement. Parce que la chose importante, c'est la prise en main du logement pour que les travaux qui ont été faits se concrétisent en économie d'énergie, mais également en baisse sur la facture. parce que ce que l'on voit, c'est que quand on augmente le confort, et bien souvent pour un prix équivalent, on va augmenter de 2 ou 3 degrés le chauffage. Et le but, c'est quand même de réduire les consommations énergétiques. Donc vous avez des aides publiques, MaPrimeRénov, et puis vous avez des aides privées, avec les certificats d'économie d'énergie qui sont payés par les fournisseurs, comme Total, EDF, d'accord, et qui vous donnent le droit également à des aides pour la rénovation énergétique de vos combles, par exemple, changer votre système de chauffage, mais également mettre une VMC double flux.
Et vous avez aussi... Il faut bien se renseigner quand on se lance dans la construction d'une maison.
Il faut bien se renseigner pour la rénover, pour construire aussi, mais pour la rénover, il faut absolument avoir des interlocuteurs de confiance. Mmh. Notre société Helio, par exemple, est une société qui a pignon sur rue. Et donc, il faut se renseigner. Lorsque vous voyez, par exemple, des isolations ou des travaux à 1 euro, il faut qu'il y ait le petit signal de vigilance qui s'allume. Voilà, quand on vous propose des travaux gratuits, souvent, ils ne sont pas forcément gage de qualité. Arnaque, exactement.
Donc, il faut être très, très attentif tout ça. On parle de l'immobilier dans Ma France aujourd'hui et des région en tension. Je vous propose d'aller sur la Côte Fleurie, c'est en Normandie où il devient difficile de devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement en tant que résidence principale. Elle attire du monde, la côte, pour des résidences secondaires ou des locations Airbnb. Pour une maison sur les côtes, il faut aujourd'hui compter 600 000 euros de budget en moyenne. La ville de Cabourg fait partie des zones concernées, Jeanne Stémar.
Quand elle est arrivée il y a quelques mois, Louane, âgée de 24 ans et salariée dans une boutique de la ville, a trouvé un appartement grâce au bouche à oreille.
Mais franchement, c'est quasi impossible de se loger. Il y a principalement des Airbnb, des résidences secondaires. Ça limite le choix, quoi. J'ai eu de la chance, mais je pense que sinon, je chercherais toujours pour le coup.
De son côté, Bénédicte est responsable en magasin. Cela fait plus d'un an qu'elle fait les allers-retours entre Honfleur et Cabourg. Elle est maman de 2 enfants et elle peine à trouver un logement près de son lieu de travail.
Actuellement, je recherche un logement à Cabourg, aux alentours, pour faire moins de route. C'est compliqué parce que chez un particulier, c'est très cher. C'est du 1200 minimum par mois. Donc il faut avoir, je crois que c'est le triple du loyer.
Mathilde Christec, responsable d'une agence immobilière à Merville-Franceville-Plage, en fait le constat. Ses clients qui souhaitent emménager dans des résidences principales doivent se battre avec ceux qui cherchent des résidences secondaires.
Souvent, quand j'ai des gens qui rentrent à l'agence et qui me disent on a un budget de 350, 400 000 et on souhaite s'installer sur la côte, je suis désolée de leur casser leur rêve en leur disant vous n'aurez pas le budget, mais je peux vous proposer Colombelles, Bavant. Ça va être compliqué également puisque malheureusement l'offre est très très peu présente.
Difficile pour les Normands de s'installer quand en hiver 80% des biens immobiliers du secteur ont leur volet fermé d'après l'agence immobilière.
Jeanne Stémar, France Bleu, Normandie. Cédric Laveau, vous êtes avec nous ce midi en duplex des studios de France Bleu Lorraine. Ce qu'on vient d'entendre là, vous êtes obligé parfois de dire à vos clients qui passent le pas de la porte, bon ben ça va être pas possible dans certains endroits trop prisés. Avec les Airbnb, avec tout ça.
C'est un tout. Alors, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les lits froids. Effectivement, ces fameux volets fermés.
Les lits froids aussi. D'accord. Vous connaissez pas l'expression.
Voilà, les lits froids sont en zone touristique. C'est typiquement voilà des volets fermés tout au long de l'année. Et la location touristique est quelquefois aussi un levier pour ces territoires à développer toute leur partie, toute leur économie. Donc, il faut pas être trop clivant non plus dans la manière d'analyser les choses et avoir des réponses qui soient trop tranchées. Mais je rebondis sur mes interlocuteurs précédents où ils ont complètement raison. L'effet pervers de la politique du logement telle qu'elle est faite en ce moment crée le manque. Et on sait très bien que l'immobilier est un marché. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans la matière de l'immobilier, c'est le logement, c'est loger les gens. C'est fondamental. Le logement est un droit fondamental. Or, la politique du logement, avec des convictions vertueuses au départ d'amélioration énergétique, restreint considérablement le nombre de logements qui sont mis sur le marché.
Vous pensez que c'est incompatible écologie ?
Mais ça n'est pas incompatible. Oui. C'est qu'on est exactement en train de créer le manque. Et donc, on fait du marché immobilier les mêmes codes que le luxe. On crée le manque. Et quand on crée le manque, il y a beaucoup de demandes en face. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait monter les prix.
Les prix augmentent.
Voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans du dogme, qu'on ait des ambitions vertueuses en matière de rénovation énergétique, mais qu'on ne casse pas cette machine à produire fondamentale qui va permettre de fluidifier le marché pour maintenir un équilibre entre l'offre et la demande.
Vous pensez que les règles sont trop strictes?
Je pense que le Premier ministre le disait, il parlait de bon sens. Eh bien, surtout qu'il conserve ce bon sens. C'est binaire, un marché. Ça répond à l'offre et la demande. J'ai un téléphone dans la main, vous êtes 10 en face à le vouloir, quel prix vaut-il ? J'ai 10 téléphones dans la main et il y en a un seul en face qui le veut, quel prix vaut-il ? Bah, c'est le même objet. Et pourtant, il n'aura pas le même prix. C'est ce qui se passe, c'est ce qui fait aussi que la disparité des prix est si variée sur le territoire. Parce qu'un aglo, ça vaut le même prix à Nice qu'à Metz. Et c'est cette pression foncière par manque de logement, par création du manque, qui fait qu'on fait exploser les prix. Et au final, eh bien, il faut faire attention. Dans la rénovation énergétique, moi, je suis très d'accord avec mon interlocuteur.
Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio, oui.
Pierre-Marie Perrin précisait qu'effectivement, aujourd'hui, l'agent immobilier a la mission de devoir évaluer convenablement le bien. Il est impossible pour un agent immobilier aujourd'hui d'évaluer un bien sans avoir le DPE en sa possession, parce que nous devons prendre en considération les travaux pour que le bien soit conforme à la réglementation énergétique et soit performant dans la valorisation du bien. Donc ça, je trouve qu'effectivement, c'est un côté vertueux. En revanche, il ne faut pas oublier quelque chose. 80% du parc privé en France, c'est EFG. Oui. Le chantier est considérable. Donc, à un moment donné, d'être trop ambitieux, trop vite, on va passer de l'ambition à l'utopie. Et attention, parce que derrière, les plus vulnérables, ce sont ceux qui auront du mal à se loger.
Pierre-Marie Perrin, une réponse peut-être ?
Ma réponse, c'est de dire qu'il faut accompagner les ménages modestes. Il faut leur permettre d'accéder au crédit, que leur reste à charge pour la rénovation énergétique de leur logement baisse, avec le prêt éco à taux zéro, par exemple. Donc ça, c'est des solutions. Et puis après, le logement, et vous le dites, il faut qu'il fonctionne sur deux jambes. Monsieur le député le disait aussi, il faut de la construction neuve, il faudrait de la réhabilitation. Et puis, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des règles qui s'assouplissent. On l'a vu notamment avec la sortie de 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés, dont le DPE était un petit peu faussé. Et du coup,
On a rectifié les critères
pour s'adapter, notamment pour les petites surfaces.
Marc Le Fur, député Les Républicains des Côtes d'Armor, sur ce débat. Alors, est-ce que les règles sont trop strictes selon vous ? Est-ce qu'il faut assouplir un peu tout ça encore ?
Beaucoup trop strictes, et c'est une accumulation de paperasse. Aujourd'hui, on irait en quelque sorte vers l'interdiction de louer ce qui relève du F et du G. Ce qui fait qu'on priverait le marché, on priverait nos compatriotes d'énormément de logements. On ne peut pas tenir là-dessus. Il faut relancer la construction. On a besoin de mètres carrés de construction. En particulier dans des régions, je le vois en Bretagne, qui attirent des gens de l'extérieur. Et c'est très bien. Ils viennent travailler, ils viennent élever leurs enfants. Il faut donner non seulement à eux-mêmes, mais à ceux qui déjà résident en Bretagne, les moyens de faire des choses.
C'est le même problème que sur le...
Le prêt à taux zéro existe. Il est interdit pour les maisons individuelles. On est dans l'absurdie. Il faut l'autoriser pour les maisons individuelles. Et l'autre élément sur lequel je me permets d'insister, c'est qu'on ne peut pas limiter la politique du logement à la politique énergétique. Il y a des outils qui existent, qui marchent parfois. J'invite les uns et les autres à la plus extrême prudence. Moi, je vois défiler chez moi, à ma permanence, des gens qui ont cru disposer de la prime rénov et qui finalement l'ont pas. Et qui se retrouvent devant des factures pour lesquelles ils attendaient un soutien public, ils n'ont pas. Donc attention à tout cela. Moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est une véritable relance de la politique du logement, qu'il réponde également aux aspirations des Français. La maison individuelle, elle est peut-être pas possible à Nice aujourd'hui, j'en conviens, ou au cœur de Paris.
Ça dépend
évidemment,
des régions,
mais il y a des régions qui peuvent accueillir des habitants, qui aspirent à accueillir des familles, et qui aujourd'hui, du fait d'une politique, ce que s'appelle le ZAN, maintenant les élus connaissent bien cela, zéro artificialisation nette, a créé artificiellement une rareté et une cherté des terrains qui privent nos compatriotes de l'accession à la propriété.
Pierre-Marie Perrin, un avis sur ce que vient de dire Marc Le Fur ?
Moi, je partage oui. ce qui vient d'être dit, mais c'est pas incompatible avec la rénovation énergétique des logements ou la réhabilitation de friches. Le ZAN, c'est une problématique effectivement avec la hausse du coût du foncier. Donc ça,
la bétonisation des sols.
Exactement. Mais après, vous parliez du prêt à taux zéro. Effectivement, il n'est pas accessible pour la construction, mais pour le financement du reste à charge dans les travaux de rénovation énergétique, il l'est. Donc voilà, d'accord. C'est deux sujets qui sont.
On a l'impression que pour s'y retrouver, il faut quand même faire beaucoup, beaucoup d'efforts.
Mais c'est très dur pour les ménages, effectivement. Vous le disiez peut-être, monsieur le député, vous avez des administrés qui ne sont pas forcément au courant ou qui attendent des aides de MaPrimeRénov et qui ne les ont pas. Et effectivement, c'est soumis à plafond de ressources. Mm-hmm. Donc vous avez des ménages qui peuvent l'avoir et d'autres non. C'est pour ça qu'il faut bien être renseigné, comme je le disais au préalable. Il faut être bien accompagné, avoir des artisans aussi de confiance. Oui. Et tout ça est compliqué parce qu'on a aussi des défaillances d'entreprises et on n'a jamais eu aussi peu d'artisans dans le bâtiment qui se lancent. Voilà, c'est une crise globale du logement et de la construction en général et on se doit de se poser l'ensemble des problématiques et notamment celle de monsieur le député.
Cédric Lavaux, vous êtes administrateur national à la FNAIM. Justement, cet empilement de normes, ça vous facilite pas le métier au quotidien?
Surtout que ces normes sont, elles sont empilées et elles sont bien souvent mises en application sans consultation préalable. Je suis, mais vraiment raccord avec les propos de monsieur le député. L'accession à la propriété est un levier d'indépendance sociale. C'est fondamental. Il y a quelque temps, il y avait une mesure fantastique. Déjà, effectivement, pour l'achat d'une maison individuelle ou une maison en bande, il n'y a pas que les maisons individuelles qui consomment 20 arts de terrain. Il y a des maisons individuelles aujourd'hui qui se font très bien en bande sur un art et demi de terrain et qui sont pas énergivores en emprise foncière. D'une part, ces maisons étaient éligibles au prêt à taux zéro et d'autre part, ce qui était redoutablement intelligent, quand vous achetiez une maison, vous aviez la possibilité pour les catégories sociales les plus faibles de bénéficier des aides au logement dans l'acquisition de votre logement, ce qui a été aboli il y a quelques années et qui est une aberration.
Eh bien écoutez, c'est sur ces mots, sur cette aberration qu'on va clore ce dossier immobilier dont on a parlé dans Ma France ce midi. J'en profite pour remercier mes invités, Cédric Lavaux, administrateur à la FNAIM en duplex depuis les studios de France Bleu Sud Lorraine, Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio et Marc Le Fur. Vous êtes député Les Républicains des Côtes d'Armor. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités ce midi.
Merci.
Bonjour Willy Rovelli.
Bonjour, comment ça va Marine?
Mais ça va très bien,
bon,
et vous-même?
Quel
est le programme?
J'ai une petite question à vous poser.
Encore?
Très personnelle, tout le temps, chaque fois je vois bim une question.
Allez-y.
Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Je veux savoir la vérité, rien.
Ah non, je ne prends pas de compléments alimentaires, j'essaie de me restreindre.
Tout
un
ça
peu,
est naturel alors?
Oh, bah oui,
bon, moi j'en
sûr.
Prends plein, la folie des compléments alimentaires, on en parle entre autres dans un instant sur France Bleu, à tout de suite.
À tout de suite.
France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française.
Découvrez De Velours.
Éric Bastien.
Un dandy au regard malicieux qui, avec élégance et poésie, nous offre un groove de lover. C'est un artiste originaire de Toulouse, assez dégoulinant d'amour et de sensualité, avec de la musique soul, funk, disco et pop. Coup de cœur France Bleu Occitanie, il vient de sortir son premier EP à découvrir dès 20h.
La nouvelle scène musicale. Découvrez les artistes de demain sur France Bleu, chaque soir, dès 20h.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
Il est 13h sur France Bleu. Mass France revient bien évidemment demain à midi, mais l'après-midi continue sur France Bleu avec Willy Rovelli et toute sa tribu.